Caribbean.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
À l'Opérec, la rivière Vedette, c'est la Doucine, un petit cours d'eau dont le nom francisé doit sans doute à la Douffine, le fleuve qu'elle rejoint à Pont-de-Buis. La Doucine est une rivière aurifère et précieuse parce que ses abords ont été aménagés par la commune avec l'aide de l'association Vivre à l'Opérec, dont notre guide Hervé Guiriec est un membre très actif. On le connaît pour ses livres, il nous fait aussi profiter de son savoir en été, en nous promenant, comme ici, entre coins de forêt, prairies, zones humides et petits chemins creux, avec un brin de botanique, d'histoire, de mythologie, voire de sorcellerie.
Méfiez-vous de la ronce, mais c'est logique qu'elle soit là, la ronce, parce que d'après des légendes bretonnes, vosgiennes et d'autres pays, la ronce autrefois était boulanger ou aubergiste, mais ils avaient la facilité de pas toujours se faire payer, donc beaucoup de gens achetaient à crédit, et c'est pour ça que depuis, la ronce n'hésite pas à vous accrocher en passant pour réclamer son dû. Hein. Vous pouvez vous approcher, vous verrez au moins la baie en formation, très belle baie. Avec les feuilles, vous allez trouver que c'est. Ça ressemble bien sûr au millepertuis. C'est de l'androsème officinal. C'est une espèce de millepertuis. Androsème, A-N-D-R-O-S-E, accent grave, M-E, officinal. L'androsème officinal.
Et là, les baies sont mûres ou elles vont garder
non,
cette
elles
couleur,
vont changer encore de couleur.
Parce que là, jusqu'à noir ou elles restent rouges?
Elles deviennent noires. Ah, oui. Je m'intéresse à toutes les plantes à baies, parce que normalement, le prochain livre en 2021 sera consacré aux plantes à baies et aux petits fruits. Donc, je guette tous les plantes à baies.
Nous suivons donc une petite boucle qui nous promène entre ombre et soleil, ce qui permet aussi de varier les espèces de plantes.
Ça, vous connaissez. C'est la reine des prés. Hein. C'est la reine des prés qui est là. Donc, là, elle est encore un peu en fleurs. Tout à l'heure, il y aura des spécimens de reine des prés beaucoup plus en fleurs. Hein. N'hésitez pas à la respirer ou la humer hein, si vous voulez vous soigner, puisque historiquement, c'est elle qui a permis donc, la création de l'aspirine. Parce que les Allemands, eux, travaillaient à partir de l'écorce du saule. Les Français travaillaient à partir donc, de la reine des prés. Et donc, ça a permis d'extraire l'acide salicylique et donc d'arriver à l'aspirine. Mais c'est quand même les Allemands avec Bayer qui ont commercialisé l'aspirine. Hein. Alors, si vous cherchez une belle définition de l'ortie, moi j'aime bien les mots croisés qui disent « une poignée de main inoubliable ».
Et donc, la petite blanche, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure.
Là, c'est la Circée, la Circée de Paris qui est plus en fleurs ici.
C'est surtout que la partie urticante est sur le dessus.
Oui. C'est ça, vraiment pas en dessous.
Oui, oui. Voilà. Mais comme souvent, on est distrait, on fait l'inverse et puis...
Ça rappelle que je courais chez mon grand-père dans le champ, j'étais tombé tout nu dans un champ d'ortie.
Ah ouais. Vous êtes immunisé maintenant
bah, je sais pas.
Bon, ça suffit.
En tout cas, c'est un souvenir.
C'est mémorisé. On va dire, là, c'est.
Voilà. En combien de temps ça passe?
Je sais pas, mais ça a mis. On m'a mis sur une chaise et je devais pas me gratter.
Ah là là, quelle horreur.
Tout nu, hein.
La plante rouge, là.
Ah. Voilà, celle que je vous déconseille. C'est celle-là que les
Roms disaient que c'est des
mini-tomates. C'est de l'arôme. Donc là, dans la rhum, tout est toxique, aussi bien donc, la racine, la feuille que les baies. Donc pour ça, je vous déconseille de la goûter. Hein. On en trouve comme ça un peu partout. Hein, donc celui-là est bien formé.
Il est tentant pour les enfants.
Il est tentant pour les enfants, c'est vrai. Que c'est. Je pense dans les centres antipoison, c'est celui qui a le plus de succès.
Oui,
je pense que où il y a le plus d'appels.
Hein. Il a la bonne hauteur.
Il a la bonne hauteur, donc c'est...
Et puis il est bien envahissant, on en a partout. Oui.
Un beau plant d'angélique. Il y a pas mal d'angélique comme ça dans les régions donc, humides, donc au bord ici du ruisseau, c'est tout à fait donc, logique. Hein. Bon, l'angélique, on connaît plutôt dans l'angélique des jardins qui est plus utilisée, mais je pense que l'angélique sauvage a des mêmes vertus hein, que l'angélique du jardin. Donc si vous voulez donc, confire votre angélique, vous pouvez. Hein.
Ou de la liqueur.
Ou de la liqueur, hein, donc... Très intéressant aussi pour les insectes. Hein. Il y a souvent beaucoup d'insectes hein, qui se posent sur les ombelles comme ça de l'angélique. Hein. Le passoire chanvrine, qui a des feuilles un peu comme le chanvre. Hein. Le chanvre qui était très cultivé en Bretagne comme
oui,
culture.
Là, on ne voit pas beaucoup parce qu'il y a
l'iseron.
Oui, il y a l'iseron aussi autour. Mais c'est le passoire chanvrine qui commence à fleurir maintenant, qui va fleurir assez, assez tard, qui est très intéressant aussi pour les abeilles, c'est très, très mellifère. Hein. On trouve souvent dans les fossés, les zones humides, hein, pour la présence comme ça de l'eupatoire chanvrine. Hein. Eupatoire, E-U-P-A-T-O-I-R-E,
chanvrine,
eupatoire. Hein, c'est... Alors c'est le nom vient d'Eupator, qui est un roi de Macédoine ou de l'Asie, hein, donc qui a donné son nom à cette plante. Hein, parce qu'il faut... Souvent l'origine des noms, c'est... il y a des origines historiques, des origines mythologiques ou des origines chrétiennes, on peut trouver pas mal. J'aime bien retrouver l'origine de certains... de certains noms, le sens de... Et ça éclaire parfois aussi hein, sur, le, sur la plante, comme aussi le nom populaire, hein, qui est aussi intéressant. Donc le patoir chanvrine. Ah, vous avez pas mal. Voilà mes baies de nouveau, avec le sureau. Voilà. C'est bon pour les oiseaux, c'est bon aussi hein, pour faire de la confiture, à condition que vous la mangiez cuite, hein, parce que c'est cru, c'est pas bon, mais cuit, c'est bon, et puis vous faire de la limonade aussi, de... avec les fleurs de sureau. Hein, donc, alors, une de mes plantes préférées pour mon jardin, c'est le liseron. Hein. Oh là là. Alors là,
c'est la galère. Cata.
C'est la galère. Cata, ça,
tous les jours,
ça se développe facilement. Même si l'INRA a fait une étude très sérieuse prouvant qu'il y avait un bon moyen de traitement que j'ai traduit moi, sous la forme de traitement, le TAB, le traitement à la binette. Hein. Mais il faut passer 18 fois dans l'année sur le même liseron. Et, ou alors planter des soucis qui normalement donc permettent d'éloigner le liseron, mais j'ai vu souvent aussi des liserons qui s'entouraient autour de la tige de soucis. Hein. Oui, c'est un souci du jardinier.
Hein. Oh, ça s'enlève plus facilement que le lierre quand même.
Oui, plus facilement, oui. Ici, si vous êtes jardinier aussi, vous connaissez le rumex. Alors moi, quand je suis arrivé à l'Opéreg il y a maintenant 45 ans, en faisant mon jardin, je dis tranquille, ici, j'entends pas parler du nom breton du rumex. Chez moi, j'étais dans le Sud-Finistère, on l'appelait le colmore, ouais. Le chou du cochon. Ici, pas de colmore, je dis c'est bien. Oui, mais dans le breton local, c'était le colteo. C'est le même. Hein. Donc j'avais bien quand même du colmore hein, dans le et du colteo et du rumex. Ah, il y en a partout. Hein, c'est... Non, l'autre jour au marché de Briac où j'ai un ancien élève qui vend son fromage de chèvre, il me dit est-ce que tu n'as pas un moyen quand même pour trouver un intérêt du rumex, parce que j'en ai partout chez moi et ça permettrait de le commercialiser. Je lui dis pour l'instant j'ai pas trouvé encore d'intérêt du rumex. Donc,
mes moutons les mangent moi.
C'est très bon pour la santé, en fait c'est une plante qu'on utilise pour fluidifier le sang et notamment quand on a des maux de tête ou certaines maladies, en fait ça booste l'immunité. Et les Amérindiens apparemment en mangeaient et en fait ils sont hémophiles. Et c'est lié justement au rumex parce qu'ils en mangeaient tellement que leur sang en fait ne cicatrisait pas pour ça. Et ils utilisaient ça pour se fortifier quoi. Donc c'est une bonne plante si vous voulez la commercialiser parce qu'elle est vraiment sauvage.
Donc, mardi prochain, je te le présenterai au marché de Briac.
Je le connais, oui. Ouais.
Faut pas en abuser quand même.
Faut pas en abuser, ouais.
Bah, c'est comme l'alcool.
Une plante par jour, une feuille par jour.
Une feuille par jour.
Et c'est la tige qui se suce et qui est très bonne. C'est très sucré.
Isabeau est munie d'un petit carnet et elle prend des notes.
Vous êtes spécialiste des plantes ?
Bon, j'aime bien les plantes. J'apprends 10 plantes par an.
Ouais, d'accord. 10, mais 10. À fond.
Mais à fond, par contre, je les connais bien.
D'accord.
Et j'en apprends 10, et souvent c'est au cours de balade comme ça, et après je cherche un peu plus loin, j'approfondis. Moi, c'est plus pour l'usage médical.
Vous voudriez les cultiver ?
Les cultiver ou sauvages, j'aime bien aussi. Mmh. Aller les récolter quand c'est la saison, les faire sécher après. Et après, voilà, je fais mon petit herbier à la maison, que j'assaisonne tous les ans, voire un peu plus parfois, tous les 6 mois. Enfin voilà, pour suivre le rythme des saisons aussi. Et ouais, ça sert bien. Pour le coronavirus, par exemple, j'avais appris sur le lamier pourpre qu'il empêchait tous les problèmes de grippe. Le lamier pourpre, c'est une toute petite plante sauvage avec des fleurs violettes. Et en fait, ça se mange, ça a un goût de champignon, ça peut se cuire, ça peut se manger cru comme ça. Et c'est un antigrippal très naturel, très fort. Donc c'est top, ça peut servir.
On peut toujours l'essayer.
Ouais, on peut toujours l'essayer. Avec un peu de plantain et puis c'est bon.
D'accord. Vous êtes un peu sorcière.
Ouais, un peu sorcière. Vous...
C'est le Senson de Jacobé. Or souvent, en lisant Internet, on a l'impression que c'est une plante qui vient d'ailleurs. En fait, elle est tout à fait indigène. Hein. Et si on lit les arrêtés préfectoraux, normalement, tout propriétaire de Senson de Jacobé, comme tout propriétaire de Chardon, est tenu aussi de les enlever. Mais tous les arrêtés préfectoraux ne sont pas appliqués, donc le Saint-Son de Jacobé. Jacobé parce qu'il fleurit normalement autant à la Saint-Jacques, donc Saint-Jacques c'est autour du 25 juillet, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Saint-Son de Jacobé. Mais il y a d'autres Saint-Sons aussi qui arrivent, notamment le Saint-Son du Cap, qui est beaucoup plus encore envahissant que le Saint-Son de Jacobé. Ça donne une belle fleur, hein, mais c'est toxique pour les bovins, encore plus pour les chevaux, hein, donc... La Doucine est intéressante parce qu'on passe de coin d'ombre à de coin au soleil et ici on aura, normalement elle fleurit simplement au printemps. Je pense que c'est un plant de l'allière. Normalement il ne fleurit pas maintenant. Hein, donc, en revanche, il y a plein de plants de mercurial. Il est vraiment une plante toxique, hein, notamment pour les vaches. Hein. Elle donne une urine plutôt violette. Hein, donc. Alors c'était intéressant, dit-on, pour les alchimistes, hein, parce qu'elle servait à transformer le plomb en or. Hein, donc c'est toujours intéressant d'avoir donc la mercuriale qui est dédiée.
Parce qu'il y a de l'or dans la douce.
Oui, mais j'ai fait le rapprochement entre les deux. Hein, donc l'or, la douce, et puis la mercuriale, qui doit son nom à Mercure, le dieu de la guerre. Oui, et puis du commerce aussi, surtout. Ça s'étend partout, moi j'en ai pas vu de mercurial comme ça ailleurs. Ici il y en a un peu partout. Hein. C'est vraiment. Alors, c'est des toutes petites fleurs blanches, minuscules, qu'on devine à peine. Hein. Donc, en revanche, le feuillage s'étend largement. Hein. Par là, on rejoint effectivement le bourg par là, on traverse le pont et on va vers le bourg. Donc nous on va continuer de manière à faire le tour. Hein.
Ouais.
Et on peut s'arrêter par ici parce que... Non, c'est pas la carotte sauvage, non. C'est de la Lenante safranée, ce que souvent on appelle la ciguë, mais qui est de Lenante safranée, qui donne de très belles ombelles blanches. Mais alors la racine s'appelle le navet du diable. Alors vous mettez 40 grammes dans votre ragoût. Alors deux conseils. Première chose, vous allez voir le notaire, faites une donation à l'association Vive à l'Opérec. Deuxième chose, vous avez encore le temps d'aller voir les pompes funèbres pour choisir votre caveau. Mais après, c'est fini. Hein. 40 grammes par 40 grammes par individu, ça suffit hein, pour cette tenance de safranée. Hein. Quelques centaines de grammes et les vaches meurent. Hein. L'année 1976, qui a été la grande année de la sécheresse en Bretagne, il y a eu pas mal de vaches qui sont décédées pour avoir consommé donc le nant safrané du navet du diable. Hein. Les individus aussi, hein, donc j'ai retrouvé des textes historiques, notamment de prisonniers qui s'échappent de la prison de Lorient et qui, au bout de 3-4 jours, n'ont plus grand-chose à manger, se disent, il y a un champ, il y a des carottes sauvages, on va manger les carottes sauvages. Oui, ils auraient mieux fait de retourner en prison parce qu'ils ont mangé de l'onante safranée. Hein, donc c'est tout à fait efficace. Hein, comme.
Donc c'est une des ciguës, c'est ça, non?
Communément, non, on appelle ça ciguë, mais en Bretagne, botaniquement, il n'y a pas de ciguë. Hein, c'est l'onante safranée que l'on trouve. C'est peut-être aussi celle que Socrate a pu consommer. Hein. Ouais. Ça fleurit au printemps. Et ça dure assez longtemps. Hein, donc, c'est peut-être la plante la plus courante qu'il y a en France ou en Europe. Hein, il y en a partout, dans toutes les régions humides comme ça. Hein. Une petite épilobe ici. Hein. Une épilobe. Il y a plusieurs variétés d'épilobes, mais là, il y a une mignonnette. Hein. Une des plus communes, et qui est toujours en fleur ici, hein, c'est le compagnon rouge, qu'on appelle également Silène. Silène, parce que Silène, c'était le précepteur de Dionysos, et que, comme Dionysos était le dieu du vin, Silène partageait aussi les bienfaits de Dionysos. On le représente souvent dans la mythologie en dodelinant sous son âne, parce qu'il avait consommé un peu trop avec sa petite bedaine. Alors pourquoi la petite bedaine en rapport avec la Silène? Parce que lorsque le compagnon rouge donne ses ovaires, ça donne un côté renflé comme une bedaine. L'imagination des botanistes a fait la suite hein, pour appeler ça donc Silène ou compagnon rouge. Il y a aussi des compagnons blancs hein, qu'on trouve plus dans les monts d'arrêt. Donc il m'arrive parfois pas qu'ils peuvent folâtrer ensemble parce qu'on a parfois quand même des compagnons qui sont entre les deux. Hein. Ici aussi il y a pas mal de belles fougères scolopendres. Hein. Le lierre est en fleur. Hein.
Ouais,
le lierre est très bon pour les abeilles. Hein, c'est pas, notamment
pour l'hiver. Hein.
C'est avec les fleurs de lierre qu'elles vont faire toutes leurs réserves d'hiver. Hein. La porcelle qui est intéressante pour les, vu son nom, pour les porcs ou pour les sangliers. Les sangliers, quand ils sont en vadrouille, ils aiment bien déterrer les racines de la porcelle. En revanche, si vous êtes propriétaire de chevaux et si vous n'avez plus dans votre champ que de la porcelle, c'est pas très bon, hein, parce que on a découvert une autre maladie. Enfin, le cheval qui mange que de la porcelle, donc, aura des problèmes de locomotion. Il va circuler de guingois. Hein, ça vient d'Australie. Et depuis les années 1970, on retrouvait ce problème. Hein. Mais c'est de là la responsabilité, on incombe aux propriétaires, parce que bon, sinon plus que de la porcelle en champ aussi, c'est pas très normal. Il y a d'abord de l'herbe, hein, qui... Oui, je m'arrête ici simplement parce qu'on verra peut-être de plus beau tout à l'heure, mais il y a des cerisiers qui repoussent. Il faut savoir que historiquement, donc, le cerisier a fait une partie de la fortune de l'Opérec au 19e et première partie du 20e siècle, hein, où à l'époque des cerises, les paysans quittaient les foins pour ramasser les cerises qui allaient être vendues au marché du Fou, ensuite expédiées à Brest et souvent dans les îles anglo-normandes. Hein. C'était donc la richesse des cerisiers de l'Opérec. Alors aujourd'hui, ils ont quasiment donc disparu. Hein. Bon, pour quelle raison? Je ne pense pas que les merles soient plus gourmands maintenant qu'à l'époque, mais en tout cas, je pense que ça a correspondu aussi à un autre type d'agriculture, hein, entre le moment où on avait encore le temps de ramasser des cerises, d'aller les vendre, et puis une époque plus moderne où il fallait bien donc faire les foins ou les moissons quand il s'agissait de travailler les champs. Hein, donc, oui, il y a une main d'œuvre plus importante aussi. Donc, donc on a l'espoir peut-être, parce qu'on est en négociation pour avoir d'autres, peut-être un jour acheter un nouveau terrain. Et le pôle fruitier de Bretagne m'a proposé une trentaine de variétés de cerisiers pour peut-être faire un peu l'équivalent des poiriers. Peut-être, on verra bien. Ça c'est les points d'interrogation des années qui viennent. J'espère que dans quelques années, on pourra faire aussi une sortie cerisier.
Un loup-garou
de la Clermondrée Scorodouane. Scorodouane, ce qui a l'odeur d'ail, et pourtant ça n'a pas du tout l'odeur d'ail. Ou c'est, comment dirais-je, sauge des bois, le nom vulgaire. Quoi. La Clermondrée Scorodouane que vous avez là, qui était beaucoup utilisée dans le temps parce que les oiseaux consomment les graines. Donc lorsqu'à l'époque on faisait de la chasse aux oiseaux avec de la glu, donc on mettait de la glu et puis à côté des graines de Clermondrée Scorodouane qui attiraient donc les oiseaux.
Et de revenir progressivement sur nos pas jusqu'au clou de la visite. Le verger conservatoire de Poirier, mis en place en 2017 avec l'aide de l'association Arbres et Pommes et du conservatoire de Plougastel-Daoulas. Mais avant les poiriers, un autre bel arbre dont les feuilles ont plusieurs folioles.
Il y a très très peu d'exemplaires, je pense, dans le Finistère. Alors je ne sais pas si vous le connaissez.
Robinier, non ?
C'est pas, non, le robinier... Tu aurais vu avec des épines assez fortes ici, il n'y a pas d'épines. Hein. On le retrouve beaucoup plus du côté de Rennes, Vitré, il y a beaucoup plus de cet arbre-là. Mmh. Ici, donc c'est pas le robinier. Alors, je vous laisse continuer à donner les noms.
C'est pas un acacia non plus.
C'est pas un acacia non plus, parce que l'acacia est...
Ça ressemble à un frêne.
Il a normalement des fleurs, normalement il a des fruits, mais il a été planté il y a 25 ans, et pour l'instant il n'y a pas encore de fruits. Il doit donner soit des pommes, soit des poires. Et c'est le cormier.
Ah, Saint-Aubin du Cormier.
Il
était très prisé des menuisiers,
oui,
pour faire les varlopes, les fameux grands rabots en bois de cormier.
Donc il faudra qu'on en plante deux ou trois supplémentaires
pour un jour espérer avoir des...
Là, vous avez pensé quoi, là, on va y arriver.
Ah d'accord. Il avait quasiment disparu de Bretagne. Hein.
Oui. Il y en serait peu.
Il y en avait peu en Bretagne.
Ah ouais. En face, vous avez donc ce qu'on appelle l'arborée poire. Donc on a fait une collection d'une bonne trentaine de poiriers, de ce qu'on appelle les poires paysannes. Alors pourquoi cette idée ici d'avoir des poires à l'Opérec? C'est venu en fait du livre que j'ai écrit avec Jean-Pierre Rouleau, qui est le président d'Arborée Pommes. Le livre s'appelle « Tomber dans les pommes ». Et il me dit un jour, mais Hervé, pourquoi ne pas faire? Ça convient bien au Finistère central ou à la Bretagne centrale, d'avoir une collection de poiriers. Et donc, j'ai lancé l'idée avec des retraités de l'Opérec et on s'est dit pourquoi pas, on essaye de faire donc un arborépoire. Donc on a lancé ça il y a 3 ans parce que ça a été planté, ça a été greffé en 2017. Donc avant il a fallu, donc le terrain était communal mais il était un peu comme l'autre côté là-bas, surtout avec beaucoup de noisetiers. Alors on a pris nos tronçonneuses, on a coupé tous les noisetiers notamment. On a vendu aussi le bois, comme ça, ça nous permettait d'acheter aussi les porte-greffes. Et après, c'est la commune, la municipalité, qui s'est chargée donc de payer une entreprise pour dessoucher les noisetiers, pour les mettre dans un trou de carrière un peu plus haut. Donc on a pu alors planter, en avril 2017, on a planté donc les premiers porte-greffes. Les porte-greffes, ce sont des, on a acheté ça, c'est des variétés allemandes, Kirchensaler, qui sont très vigoureuses, sur lesquelles ont déjà été greffées à une autre tige, qui est une variété Augereau d'Angers. Et après, le troisième étage, ce sont nos greffons. Donc il y a trois étages, racines allemandes, douceur angevine, et puis après, nos propres greffons. Hein.
Et il y a combien de variétés paysannes alors,
là, il y a 30 ou même 32. Parce que,
ah oui, c'est une variété par an.
Oui, parce qu'au départ, on devait faire, comme tout arboretoire, arborépoire, avoir deux de la même variété, mais on avait tellement de variétés qu'on a préféré greffer tout ce qu'on avait et puis quitte après à les replanter ailleurs. Hein. On travaille aussi avec les conservatoires de Plougastel-Daoulas et de Plabennec, hein, donc on a de bons rapports avec eux aussi pour travailler avec Plabennec et Plougastel-Daoulas, donc les greffeurs peuvent venir aussi de Plougastel ou de Plabennec. Hein.
Et là, il y en a un, au moins un qui a des poires déjà.
Oui, pour l'instant, il n'y a qu'un seul qui a des poires. On va le voir de plus près tout à l'heure. Hein. Donc en fait, après, une fois qu'on a planté, il a fallu récupérer les greffons. Alors là, donc, on a interrogé les Lepérécois, les communes voisines aussi, s'ils avaient donc des poires intéressantes. On a trouvé un certain nombre, donc on a récupéré les greffons. Alors parfois, c'était simplement en se promenant. Je me rappelle, un dimanche, je me promenais donc le long de la rivière du Fou, près de la chapelle de l'Envoi, et puis on tombe nez à nez avec un superbe poirier. Donc j'ai commencé par mettre une rubalise autour. Je suis retourné après chercher des greffons quand c'était le moment, et puis il pousse maintenant là. Donc, alors, on l'appelle maintenant la poire de l'Envoi. Bon, peut-être que ça correspond à une autre, oui. Alors un autre, vous verrez, il y a la poire Marguerite, hein, donc qui vient du bourg de l'Opérec, hein, et Gérard qui nous l'a donné. Bon, je lui dis, quel est son nom? Ah, je ne sais pas, je l'ai toujours vue là. Elle était déjà au temps de ma grand-mère, de ma mère. Et ta mère s'appelle comment? Ben, elle s'appelle Marguerite. Donc on a désormais la père Marguerite. Donc c'est possible que ce soit la même poire, une autre poire d'un autre village de l'Opérec, c'est possible. Hein. On voulait simplement sauver des vieilles variétés. Les poires ne sont pas toujours fameuses peut-être, mais on aura au moins les espèces d'origine. Le seul problème qu'on a, c'est que le poirier qui est là et le poirier qui est là, donc les deux premiers qu'on voit, c'est ceux qui n'ont pas pris. Donc c'est moche, hein. Mais en fait ça a été regreffé, mais pour cause de Covid, ils sont mis dans des beaux pots, dans des grands pots à Plougastel-Daoulas, et on attendait la fin du Covid, donc maintenant l'automne, pour les planter. Donc c'est prévu, mais bon, le Covid a fait qu'on a pris un peu de retard. On va aller voir donc Perry-Hercugno, l'origine Plouet, ouais. Greffé donc le 15 avril 2017, et regreffé 23 mars 2018. Donc, on l'a regreffé parce qu'on a eu des problèmes avec certains porte-greffes, hein, qui étaient mauvais, donc on a dû parfois les couper plus bas. C'est bien qu'on aura des poiriers qui seront un peu plus bas parce qu'on a sacrifié la partie qui n'avait pas... Il n'avait pas pris. Hein, donc,
la poire longue.
Oui, la poire longue de Cugno. Cugno, je pense que c'est peut-être le village de Plouet, on a retrouvé.
Il y a un village qui s'appelle Cugno.
Je pense que c'est là que ça vient. Et donc celui qui donne ses premiers fruits maintenant, c'est Père Locunel. Je ne sais pas si Locunel doit correspondre aussi à un village de Plouet. Il a persisté, il a donné effectivement de beaux. Oui, ça restera des petites poires. Hein, c'est pas. On n'a pas voulu développer les poires Williams, les Guyot ou les poires comme ça, hein, les poires de la noblesse. Nous, on est dans les poires populaires, celles qu'on trouvait sur des talus autour des habitations ou des fermes, qui étaient croquées donc directement quand c'était mûr en septembre-octobre ou transformées éventuellement en poirées. C'est ces poires-là qui nous intéressent. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur les, sur les poires paysannes. Hein, c'est pas, bon, en revanche, la poire était la, la poire de la royauté. Dans les jardins de, la, de Versailles et de la Catimie, il y avait beaucoup de poiriers appréciés de Louis XIV, mais pas ces modestes poires qui étaient réservées donc, aux, aux paysans et aux gens du peuple. Hein. Alors le problème, c'est qu'après, il faudra qu'on... Moi, j'aurai mal au cœur, parce que Jean-Pierre Rouleau le, nous dit qu'il faudra après... Ne garder qu'un choisir le meilleur plan. Alors je trouve que c'est le, la meilleure greffe. Alors je trouve que c'est un peu mal au cœur parce que là il est bien équilibré et tout. Mais si on ne, il nous dit que si on ne coupe pas un, après le vent peut porter au milieu et puis écarter aussi les écarter les plans. Hein, donc, alors, monsieur, la question qui m'a été posée dès le départ, c'est mais quand vous allez mettre la clôture? Quand je dis il y aura de questions qu'on mette une clôture. Dans 30 ans, 40 ans, il y aura largement de quoi nourrir tous les Lopérécois et tous les voisins en, en poire. Hein.
On peut suivre Hervé Guiriec chaque jeudi de l'été au fil de ses balades botaniques à l'Opérec. C'est gratuit et c'est enchanteur. Les ouvrages d'Hervé Guiriec sont quant à eux publiés essentiellement aux éditions Locus Solus.